With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quel compromis êtes-vous prêt à faire pour la personne que vous aimez? Quel sacrifice? Vous êtes déjà posé ces questions? Lou, elle, c'est simple, elle est prête à tout. Tout, même être la maîtresse d'un homme qui n'est pourtant pas marié. Tout du moment qu'on ne lui enlève pas celui qu'elle aime.
Alors, on est en 2012, j'ai 27 ans. J'habite à Avignon depuis 3 ans. Parce que mon compagnon, à ce moment-là, est avignonnais et je l'ai rencontré lorsque je travaillais en saison à Courchevel. Il a déjà des enfants qui sont à Avignon. Il ne peut pas bouger, on se situe là-bas. Donc ça fait 3 ans que je vis là-bas. J'ai un peu de mal avec la vie du Sud, avec les mentalités qui sont différentes parce que moi, à la base, je viens de Bordeaux et c'est assez différent. Donc, je suis manager d'un salon de coiffure et mon compagnon a des parts d'un salon de coiffure qui, à la base, appartient à son frère. Et moi, donc, j'ai été missionnée pour relever un peu ce salon qui se cassait un peu la figure. Et moi, je devais un peu relever le truc. Et puis, ben voilà, au bout de 3 ans, c'était encore un peu compliqué. Ça prenait pas. Et donc, j'ai pas l'impression d'être une très bonne manager à ce moment-là. J'ai du mal à trouver ma place. Et du coup, ben. Voilà, c'est pas très facile, mais j'essaye de travailler très très dur pour faire en sorte que les chiffres du salon soient un peu meilleurs. Alors, on est un couple, on s'entend très bien, il est extrêmement gentil, il est extrêmement bienveillant, il est fou amoureux de moi, je le ressens beaucoup, il me met sur un piédestal, donc c'est assez agréable évidemment. Moi, j'ai tendance à dire qu'il m'a eu à l'usure. Parce qu'au départ, il ne correspondait pas du tout à mes critères, parce qu'il était plus vieux, parce que j'ai toujours eu l'habitude un peu de relations un petit peu plus passionnelles. Avec lui, ça n'a pas été le cas, parce que je crois qu'il ne plaît pas vraiment physiquement. Mais c'est quelqu'un de tellement chouette, qui me porte tellement, que j'adore la vie qu'on a. Tout est facile, il s'entend très bien avec ma famille, il s'entend très bien avec mes amis, il se plie en 12 pour moi. Je fais tout pour me rendre la vie jolie. Mais je suis dans un mode où parfois je suis très 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 bien avec lui. Je me dis « Ah non, mais il est vraiment trop chouette ». Et puis il y a des jours où je me sens beaucoup moins amoureuse. Mais je me dis « Allez, c'est pas grave. Je sais que ça va revenir. Ça revient toujours. Je me sens en sécurité. » Voilà, je me sens vraiment dans une zone de confort extrême qui fait que c'est pas mal. Mais je crois que je m'ennuie et j'ose pas me le dire. Donc lui, il a 2 enfants déjà. Il est en plein divorce, ça traîne un peu, c'est compliqué, mais il s'en fiche, il est vraiment avec moi. Et à un moment donné, j'arrive dans des moments où toutes mes copines, mes cousines, enfin tous les gens autour de moi commencent à avoir des enfants. Et moi, j'ai donc 27 ans à ce moment-là, on est ensemble depuis que j'ai 24 ans, et je me dis que c'est peut-être pas mal de faire un gosse, ça va être le moment d'avancer, de changer de vie et peut-être du coup d'apporter un peu de piment dans tout ça. Donc, on décide que j'arrête la pilule à ce moment-là. Mais je suis assez sereine dans cette idée-là parce que c'est un super papa, il va être super. Mais voilà, je suis emballée par l'idée de changer un peu quelque chose dans ma vie. Mais je crois que je me rends pas vraiment compte de ce que ça implique. « Donc, à ce moment-là, le salon de coiffure dans lequel je travaille bat vraiment de l'aile et du coup est mis en vente. Mon compagnon est impliqué dans cette vente puisqu'il y a des parts. Et puis, ça traîne un peu en longueur. Et puis, un jour, on nous présente, à moi et aux autres salariés, nos nouveaux patrons, parce qu'il y a deux personnes qui arrivent, qui sont donc des Bordelais, qui sont des franchiseurs, qui ont, voilà, c'est des hommes d'affaires, c'est pas du tout des coiffeurs. Et ils ont des chaînes de salons de coiffure à Bordeaux. Et du coup, ils rachèteraient le salon dans lequel je travaille. Et c'est ce qui se passe, ils rachètent le salon. Donc, on voit tout le temps un peu la même personne, qui est un gars qui vient régulièrement nous parler, nous expliquer comment ça va se passer. Voilà, la vente se fait. Et puis, un jour, il dit qu'il vient avec son associé pour nous faire une grosse réunion un soir. Donc, l'associé, je ne l'avais jamais vu. Donc, celui qu'on avait l'habitude de voir, c'était quelqu'un d'assez expansif, qui était très ouvert, qui parlait beaucoup, qui était vraiment sur le devant de la scène, on va dire. Et puis l'autre, je ne sais pas, quand je l'ai vu, il m'a intriguée parce qu'il était très, très en retrait, très dans l'observation. Alors, physiquement, il n'est pas très grand. Il est plus petit que moi, par exemple. Mais malgré ça, il a un charisme incroyable. Donc vraiment très charismatique, il a beaucoup de charme, il a un regard assez ténébreux, assez transperçant, parce que je me suis sentie assez transpercée par ce regard. Voilà, alors il a un look, il est classe, sobre, je vois qu'il est typé, très typé, méditerranéen, je ne sais pas trop exactement, mais assez typé, les cheveux courts mais bouclés, presque un peu crantés. Brun, très brun, évidemment, avec le teint très mat. Mais voilà, il a une façon de se mouvoir qui est chic, qui va bien. Et quand il parle très peu, mais quand il parle, il a une voix qui est assez suave, avec un timbre très, très bas, assez monocorde. Mais ça lui donne un charme fou et j'adore quand il parle, même s'il parle peu. Je ne sais pas s'il me tape dans l'œil, mais en tout cas, je ressens quelque chose de particulier. C'est-à-dire que l'autre, je ne le vois plus. Alors oui, je crois qu'en fait, on peut dire que je me sens un peu attirée, mais je ne suis tellement pas là-dedans que je ne me l'avoue pas. Mais l'autre, je ne le vois plus et je n'écoute pas ce qu'il me raconte. Et voilà, la réunion se termine, ils repartent à Bordeaux. Quand ils viennent vraiment en coup de vent, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours. Ils passent parfois une heure, parfois ils restent la journée avec nous, mais on se voit assez peu. On s'appelle beaucoup, en plus comme je suis donc manager de ce salon, c'est surtout moi qui suis en relation avec eux. Le management change, c'est-à-dire que moi ça ne me déplaît pas, ils mettent quelqu'un d'autre à ma place parce que c'est quelque chose qui est un peu lourd pour moi. Donc, quelqu'un d'autre qui prend ma place en management et ça se passe très, très bien. Donc, je suis moins en lien avec lui, du coup. Mais quand le téléphone sonne, je suis bien contente quand c'est moi qui réponds et que c'est lui qui appelle et qu'on se tombe dessus. Je passe toujours un moment très agréable en entendant sa voix. Ça me charme toujours autant. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc, moi, on se resitue. Je suis quand même en couple. Je viens d'arrêter la pilule. Voilà, je suis dans mon délire d'enfant, de tout ça. Voilà, j'ai toute ma vie à côté et ça, c'est vraiment rien. C'est juste que de temps en temps, j'ai des... Voilà, comme de temps en temps dans la vie, on aime avoir des... Voilà, un petit jeu de séduction avec des personnes, ça nous rassure, ça fait du bien. Voilà, mais ça s'arrête là. Et puis, un jour, il vient au salon tout seul. Et je sens que c'est honnête de lui dire que j'essaie d'avoir un enfant parce que, voilà, je me répète, mais c'est vrai que je suis un élément au niveau du chiffre d'affaires qui est important. Donc, si je dois m'arrêter parce que je suis enceinte ou voilà, en arrêt pour maternité, il faut que je les prévienne. Donc, je vais le voir et je lui dis, voilà, il faut que je vous parle. Je voulais voilà, être honnête et vous dire que ben, j'essaie d'avoir un enfant avec mon compagnon. Donc, il a été tout à fait compréhensif, ça s'est très bien passé. Donc, entre-temps, j'en apprends un peu plus sur lui. J'apprends que c'est un homme qui a, à l'époque, 47 ans, donc on a 20 ans d'écart. Et il est divorcé, il a 4 enfants et il est de confession juive. C'était le côté méditerranéen que j'avais pu percevoir. Et c'est un monde que je connais un peu parce que mon compagnon est aussi de confession juive. Mais voilà, ils pratiquent la religion très très peu. C'est pas du tout quelque chose qui prend de la place dans notre couple, dans notre vie au quotidien. Ils pratiquent vraiment très light. Sa famille un peu plus, ses parents, ses oncles et tantes, mais ses frères pas du tout. Donc de temps en temps, il y a des fêtes juives qu'on fête avec ses parents, mais moi je prends ça comme un repas. Alors certes, il y a une prière au début, mais bon, moi je viens d'une famille où on n'est pas du tout religieux, pas du tout pratiquant de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pas un sujet qui m'attire, qui m'intéresse particulièrement. Mais ça pose pas de problème. Voilà, sa famille m'accepte. On décide d'avoir un enfant alors que la religion se transmet par la mère. Donc il pourrait très bien me dire, écoute, ça va être compliqué, mais non, pas du tout. Et à la fin du mois de septembre, c'était une des fêtes juives qui s'appelle Rosh Hashanah. C'est le nouvel an juif. C'est une grande fête. Et je fête cette célébration avec la famille de mon conjoint. Et je n'arrête pas de penser que c'est aussi la fête pour Simon, parce que donc mon nouveau patron s'appelle Simon. Et je pense à lui et je me dis, tiens, ce serait quand même sympa que je lui souhaite une bonne fête, un bon nouvel an juif. Puis il sait très bien que je suis avec quelqu'un qui est de la même religion que lui, donc il comprendra que je lui souhaite cette fête. Donc je lui envoie un message, le premier texto. Et je lui souhaite Shana Tova, qui veut donc dire bonne année. Je ne sais plus exactement ce que je lui marque, mais en lui disant que j'espère qu'il a passé de bonnes fêtes et que, voilà, nous, notre côté, c'était très sympa. Enfin, un truc très simple. Et puis, c'est vrai que quand j'envoie ce message, je me sens un peu bizarre. J'ai hâte qu'il me réponde, j'ai hâte de voir ce qu'il va penser. De ce message, voilà. Mais je sens bien quand même que je ne le fais pas du tout en mode la bonne petite élève. Et puis, bah, je n'ai pas de nouvelles sur le coup, je n'ai pas de nouvelles tout de suite. Et bah, je suis super déçue en fait. C'est très très bête, mais je lui renvoie un message en lui disant « Je vous ai envoyé un message, mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez eu, alors je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes. » Et puis là, il me renvoie un message en me disant « Je suis allée passer mes fêtes à l'étranger, je suis désolée, mon téléphone a bugué, mais voilà, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, c'est super cool. » Et là, ben, je suis trop contente d'avoir une réponse. Il m'envoie derrière une petite vidéo qui était une chanson du moment qui a été reprise du coup avec Shana Tova pour souhaiter la fête, donc c'était voilà, une petite reprise assez rigolote. Et donc, il m'envoie ça, et du coup, je me marre, et je lui envoie autre chose. Et voilà, et puis pendant une journée ou deux, on se fait des petits échanges de messages qui sont évidemment de la séduction, mais je ne veux pas me l'avouer, donc je trouve ça juste super cool de discuter avec mon patron, qui est vraiment détente, c'est sympa, voilà. Mais évidemment, je ne m'en vante auprès de personne, ni auprès des autres employés, ni auprès de mon compagnon. Je ne lui dis pas du tout que j'ai ce genre de conversation, parce que je me rends bien compte quand même que ce n'est pas tout à fait normal. Et donc, on continue à converser, c'est-à-dire qu'en fait, on s'écrit tous les jours. Et on arrive à un moment où, jour après jour, semaine après semaine, on finit par se dire bonjour le matin et se dire bonne nuit le soir. Et là, on sait très bien tous les deux que ça ne va pas du tout. Et je crois qu'on se le dit. On rentre petit à petit dans un vrai jeu de séduction. Et je crois qu'on s'appelle même assez rapidement pour... voilà, parce que les textos, ça va un moment. Alors, on s'appelle pour continuer nos discussions et on parle beaucoup de tout et de rien. Et il me raconte sa vie, je raconte la mienne. Il faut savoir que c'est quelqu'un de très taiseux, vraiment très taiseux. Il me fait parler beaucoup. Alors moi, je suis assez pipelette, donc ça va bien. Lui, il parle très peu. Il élude beaucoup de sujets. Il répond sur des réponses assez fermées. Voilà. Forcément, comme il est mystérieux, il me passionne et j'ai envie d'en savoir encore plus. Et puis, j'ai l'impression que vraiment... il s'intéresse à qui je suis, à ce que je ressens. Donc, le doute s'installe en moi, très très fort. Et lui me pousse dans le « tu es bien dans ton couple, tu sais, là, oui, on se marre, c'est sympa, mais bien sûr qu'il y a quelque chose de particulier, mais c'est parce que, voilà, bon, il a 20 ans de plus, il a plus d'expérience, donc il ne m'apprend pas la vie, mais il me dit un peu, tu sais, dans la vie, c'est comme ça, parfois, là, tu dois avoir un peu peur, alors ça te fait du bien qu'on discute, mais tu sais, on fait rien de mal. Je pense qu'il essaie de se persuader lui aussi que ça va aller, qu'on va pas aller plus loin, qu'on va pas chercher. Sauf que moi, très vite, je sens que je bascule petit à petit dans quelque chose de très dangereux parce que je suis beaucoup trop accro à ces messages, beaucoup trop accro à ces appels. Et j'arrive à un moment donné où on s'écrit la nuit, où je descends tout doucement pour aller m'enfermer dans les toilettes la nuit pour continuer à lui envoyer des messages. Et le matin, voilà, je remonte vite. Et puis le matin, la première chose que je fais, c'est que je regarde sur mon téléphone si j'ai des messages. Donc je me rends compte que c'est dangereux. Alors je crée un WhatsApp ou autre chose pour qu'on puisse discuter un peu plus secrètement parce que j'ai beaucoup trop peur que mon compagnon tombe dessus. J'ai pas du tout envie de tout foutre en l'air. Mon compagnon, à ce moment-là, voit que je suis la tête ailleurs. Il pense que ça va pas trop. Il voit que je suis beaucoup, beaucoup sur mon téléphone. Il me le reproche. Et il a raison. J'ai énormément d'amis, donc j'ai toujours une bonne raison d'être sur mon téléphone. À ce moment-là, on doit être mi-octobre, fin octobre. Et ça fait quand même presque 2 mois que j'essaye de tomber enceinte. Et donc, je fais un test de grossesse. Et avant de faire le test, je me mets à pleurer. Je suis terrorisée. Donc, mon compagnon me prend dans ses bras et me dit « Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu sais, si c'est négatif, il n'y a pas de souci. C'est le début, on prendra le temps de… Voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Ne te mets pas dans tous tes états, fais ton test et si c'est négatif, il n'y a pas de souci. » Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que je pleurais parce que j'avais trop peur que ce test soit positif parce que je me rendais compte que là, j'avais plus du tout envie d'avoir un enfant avec lui. Et là, ça a été le début de la fin parce que cette éventuelle maternité me fait prendre conscience que je ne suis plus du tout là-dedans, plus du tout dans ce désir de fonder une famille et que tout ce qui m'intéresse, c'est l'autre, c'est Simon. Là, j'ai plus du tout envie d'être enceinte, j'ai plus du tout envie de ce projet et très vite, j'en fais part à mon compagnon. Parce que je me dis que ça ne peut pas durer. Donc, je lui dis, tu sais, je ne suis pas très bien en ce moment, je déprime un peu, je suis fatiguée, ma famille me manque. Donc, je fais le test et ouf, pour moi, il est négatif. Donc là, tout est OK, je suis encore tranquille quelques temps pour pouvoir prendre de vraies décisions. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus ce que je veux. À ce moment-là, il ne se passe rien, on s'est jamais vu avec Simon, mais je décide que peut-être qu'au contraire, il va falloir passer le pas, se voir, parce que je me connais, je suis quelqu'un de passionné, et que là, c'est une pulsion qui est tellement énorme et qui commence à prendre tellement de place que j'ai l'idée certainement saugrenue de me dire, voilà, je vais le voir, on va passer... un moment ensemble, peut-être une nuit ensemble, un week-end ensemble. Je vais passer mon envie, je vais passer cette pulsion. Et puis après, voilà, c'est fait, on n'en parle plus, je ferme la parenthèse et tout ira mieux. Donc, je fais part de cette grande idée à Simon qui, on est tellement allé loin dans la séduction au téléphone, par texto, on se rend à l'évidence qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'on se voit. Et voilà, je suis très, très forte pour le persuader. Et je lui dis, allez, viens, on se fait ça, on se prévoit un week-end. Voilà. Et je crois qu'on le prévoit 2 semaines plus tard. Donc, je prétexte une formation à Bordeaux. Et c'est tout à fait logique puisque le centre de formation est à Bordeaux, tous les salons sont à Bordeaux. Donc, mon compagnon n'y voit absolument aucun inconvénient. Et au contraire, il propose de m'accompagner à la gare, en parfait gentleman qu'il est. Donc, je suis surexcitée et en même temps totalement apeurée de ce que je vais découvrir et de ce que je vais faire. Et en même temps, j'ai peur de moi et Et c'est tellement pas dans mon éducation de faire une chose pareille. Et puis je me dis, là, je vais clairement dans la gueule du loup. C'est-à-dire que là, je rentrerai de ce week-end, ben, il va falloir arriver à se regarder dans le miroir derrière, il va falloir arriver à reprendre sa vie. Vis-à-vis de mon compagnon, je suis très, très, très mal. Mais cette pulsion me dévore et je sais que de toute façon, je ne peux pas aller contre. C'est inexplicable. J'ai besoin de faire ça parce que je suis de toute façon en train de foutre mon couple en l'air, quoi qu'il en soit, puisque je ne suis plus dedans. Donc je me dis que c'est peut-être une chance pour essayer de au contraire, relancer la machine, relancer ma vie en laissant derrière voilà, une pulsion assouvie. Je pars, donc évidemment, je suis préparée comme jamais, hein, comme si j'allais à un premier encart, et je vais en fait à un premier encart. Hein. Je rejoins Simon, qui est sur le parking, à côté de sa voiture, et là je le vois, c'est très particulier, j'ai peur en fait, je n'ose pas, et je me rends compte quand même que ben, j'ai en face de moi mon patron, et que j'y vais pour tout sauf pour le travail. Et je le vois et je le trouve craquant. Je me dis, oh, il est encore plus petit que ce que je me rappelle quand même. Hein. Parce qu'il est quand même bien plus petit que moi. Bon, je suis quand même grande, hein, mais voilà. Je me rappelle que je me dis ça. Et que quand j'arrive à sa hauteur, bah, en fait, j'en ai plus rien à faire. Et je le trouve trop chouette. Et à ce moment-là, on ne s'embrasse pas. On se serre un peu dans les bras. Mais on est quand même très gêné et assez mal à l'aise. Et puis, surtout, j'ai trop peur, et lui aussi, que quelqu'un nous voit. Alors vite, on rentre dans la voiture, et il m'emmène dans un des plus bels hôtels, un petit peu à l'extérieur de Bordeaux, un hôtel sublime, un 5 étoiles, avec un spa, avec tout. Enfin, voilà, il a tout bien fait correctement. Donc, on arrive à l'hôtel, et il est assez tard. Donc, on va directement dans notre chambre, qui est une immense suite, il fait monter à manger, il fait monter à boire. Et je suis bizarrement très vite, très à l'aise. Et lui aussi. Et on passe une soirée incroyable. On passe une nuit dingue. Vraiment, c'est comme si on se connaissait déjà par cœur. Il n'y a aucune gêne. Tout est super fluide. Il y a une alchimie qui est incroyable. Tous nos sens sont en éveil et fonctionnent parfaitement ensemble. C'est assez dingue et en fait, j'ai jamais connu ça. De toute ma vie, je n'ai jamais connu ça. C'est terrible bah, parce que le lendemain, il faut qu'on se sépare. Et je suis comme une moule à mon rocher à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne se lâche pas. Nos corps sont complètement scotchés l'un à l'autre et c'est très compliqué. Je suis complètement perdue et il faut que je rentre absolument à Avignon. Comme je l'avais promis, quoi. Il fallait qu'on ferme la parenthèse et c'était terminé. Et évidemment, bah, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé parce que bah, je rentre et je suis dévastée. Dévastée parce que bah, c'est trop tard. Je suis passée de l'autre côté, j'ai complètement basculé. Et ce qui s'est passé, bah, j'ai qu'une envie, c'est que ça recommence encore et encore et encore et encore. Et je crois que déjà à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur une île déserte avec cet homme et d'y passer toute ma vie. C'est terrible comme sensation, mais à la minute où on se sépare, il me manque atrocement. Il manque à mon corps, il manque à mon cœur. C'est une explosion de sentiments dans tous les sens. C'est vraiment flippant. Et en fait, le pire, c'est que j'ai ressenti que pour lui, c'était la même chose. Sauf que lui, ben, il a 20 ans de plus. Il a sa religion qui est très, très forte. Et qui lui fait voir les choses d'un angle complètement différent du mien, qui lui permet d'être beaucoup plus tempéré. Au niveau de sa religion, lui, c'est quelqu'un de très, très impliqué. À l'inverse de mon compagnon, il est très pratiquant. On dit qu'il est chômer shabbat, c'est-à-dire qu'il fait tous les shabbats, c'est-à-dire tous les vendredis soirs jusqu'au samedi soir. Il éteint son téléphone, il va à la synagogue, il vit chez lui, il profite de sa famille, il n'en démord pas et ça c'est vraiment ancré en lui, c'est comme ça qu'il a été élevé. Je trouve ça très chouette, mais voilà, moi je ne connais pas du tout ce monde-là à ce niveau-là. Donc ces traditions dans lesquelles il a toujours grandi, il a évolué, font partie de lui à part entière. J'ai l'impression que c'est plus de 50% de lui-même. Il en parle énormément, Son quotidien est bercé par ça, il prie tous les matins, il n'est pas du tout dans l'extrême. Par contre, sa religion, sa foi est très très forte et clairement, il m'explique très très vite qu'être avec moi, c'est impossible. Parce qu'il ne peut pas faire sa vie avec une non-juive.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.